sei Gott, für seine Gnade und Treue.
Loué soit Dieu. Loué soit Dieu pour sa grâce et sa fidélité, et une fois encore pour le privilège qu'il nous a accordé d'être à nouveau rassemblés devant sa face. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas debout ou assis devant des hommes. Nous sommes conscients que nous sommes en présence de Dieu, qu'il voit tout, qu'il entend tout, et que sa parole pénètre comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, jusqu'à ce qu'elle sépare l'âme, la moelle, les os et l'esprit, tout est pénétré. Et nous croyons que la parole de Dieu pénètre également dans ces jours. Nous croyons, comme il est écrit, que c'est par la parole que tout a été fait, de ce qui a été fait. Jean chapitre 1. Et sans la parole, rien n'est devenu. Sans la parole de Dieu, rien ne devient. Dieu a parlé et cela a été fait. Aujourd'hui encore, il a ordonné et cela a existé. Aujourd'hui encore, rien ne peut se faire sans que Dieu n'envoie sa parole, ne nous guérisse, ne nous illumine par son esprit et ne nous fasse connaître les choses dont il s'agit. Nous sommes en effet reconnaissants au Seigneur pour toutes ces manifestations de grâce, pour l'initiation profonde à sa parole, voire à sa pensée éternelle de salut. Aucun homme n'aurait pu les sonder ou les explorer, sinon cela aurait été fait depuis longtemps. Des hommes ont essayé, et comme je l'ai dit ce matin, le temps n'était pas encore venu. Il y a cette belle parole dans l'Écriture sainte, quand le temps fut accompli, quand le temps fut accompli. Nous pensons aussi à l'Ancien Testament. Lorsque Moïse eut 40 ans, il eut une puissante envie de faire sortir Israël et il est allé tuer un Égyptien. Et il est effectivement écrit dans la Bible qu'il supposait que les Israélites reconnaîtraient ainsi que Dieu accordait la libération à travers lui. Il entrera l'Égyptien dans le sable et le lendemain, il vit deux de ses compatriotes se disputer. L'un d'eux lui dit alors, « Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Et Moïse prit la fuite, prit congé et dut attendre encore 40 ans. Et après ces 40 ans, l'heure de Dieu n'était pas. L'heure de Dieu était là. Pas seulement l'envie, pas seulement d'être poussé à faire quelque chose, pas seulement la connaissance. Mais Dieu, quand Dieu a désigné quelqu'un pour cela, nous devons attendre que son heure soit arrivée. Car de savoir, Dieu m'a désigné pour cela. Mais si Dieu a déjà désigné une chose, alors nous devons attendre que son heure soit venue. Selon la parole de l'Écriture, votre temps est tout entier, mais mon heure n'est pas encore venue. Lorsque 40 ans se sont écoulés et que la force physique de Moïse a diminué ou qu'il n'a plus été en mesure de se déployer comme il y a 40 ans, l'heure de Dieu a sonné. C'est là que l'heure de Dieu a sonné. Il n'avait alors plus besoin de son bras et de son poing. Alors la droite du Seigneur marchait devant lui et devant l'Éternel, et devant Israël, pardon. Alors ce n'était plus son affaire, c'était alors l'affaire de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons voir les choses en ce moment aussi, comme je me réjouirais, et nous tous, si déjà les choses les plus puissantes se produisaient et qu'une grande joie s'élevait dans la maison de Dieu et dans nos cœurs. Nous croyons que Dieu est sur le trône. Et nous croyons que tout se déroule selon son saint plan et sa sainte volonté. Et il y a cette belle parole dans l'épître de Pierre concernant la venue du Seigneur. Et il y est dit que certains considèrent cette promesse comme un retard, comme s'ils devaient l'attendre. Et le Seigneur répond, il ne tarde pas à venir. Il ne veut simplement pas que se perdent encore ceux qui doivent être sauvés. Il attend que les derniers arrivent, soient appelés et entrent dans le royaume de Dieu. Et alors, ce qui doit arriver arrive. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots, en paroles, mais je suis touché. Et touché par la précision de la parole. Touché par la manière dont Dieu a dit toutes ces choses si clairement par l'intermédiaire des prophètes et des apôtres. Et même lorsqu'il marchait sur la terre, lui-même et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons les comprendre si clairement par la révélation de l'Esprit. Aucun d'entre nous n'a pu prendre quoi, n'a pu se procurer quoi que ce soit. C'est Dieu qui nous l'a donné. Pour accompagner cette brève réflexion sur la parole, je voudrais lire quelques passages de l'Écriture en commençant par Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, ici le 9e verset, ou peut-être le verset 9 et le verset 10. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront comme rois sur la terre. » Ce n'est pas dans toutes les paroles qu'il est question de l'enlèvement, lorsqu'il est question de la foule rachetée par le sang. Une fois de l'enlèvement, alors ils régneront avec le Christ, partageront leur royauté avec lui. Quoi que ce soit aussi, nous serons partout où il se passera quelque chose. Quand l'enlèvement aura lieu, nous serons là. Quand le repas de noces aura lieu, nous serons au repas de noces. Lorsque le règne de 1000 ans commencera, nous serons à nouveau avec le Seigneur. Nous serons avec lui en permanence, pour toujours. S'il est au festin de noces, nous serons aussi au festin de noces. S'il entre dans le règne, nous entrerons dans le règne avec lui. Nous serons là où il est. Oh, quelle jubilation, quelle jubilation, quelle joie, quelle exaltation, quelle joie profonde. Et nous devrions être reconnaissants d'être toujours avec le Seigneur. Cela vaut la peine de le servir fidèlement, de le suivre, d'être obéissant et de croire de tout notre cœur. L'agneau qui s'est laissé égorger, immoler, est seul digne de prendre ce livre scellé, d'en défaire les sceaux et de révéler ce qui y est écrit. C'est ce qui y est écrit. Nous sommes également reconnaissants au Seigneur de ce que la signification des sceaux nous a été donnée directement par Dieu. Directement par Dieu. Les quatre premiers sceaux, très clairs, très explicites, l'Antichrist montré dans ces quatre étapes, et dans ces quatre étapes, commence de manière très religieuse, très pieuse. Il est présenté par le cheval blanc. Il a un arc, mais pas de flèche. C'est donc un trompeur. Il n'a rien à offrir, seulement à tromper. Ensuite, dans le deuxième sceau, nous voyons la suite, un autre cheval rouge feu. Puis dans le troisième, un cheval noir. Dans le quatrième, les trois premières couleurs, sont mélangées et c'est un cheval pâle. Et le cortège est-il écrit, c'est le royaume des morts. La mort et le royaume des morts sont le cortège de cette puissance antichrétienne. Nous l'avons déjà étudié ce matin. Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus. D'un côté, il y avait quatre êtres vivants qui sont devant le trône. Et de l'autre côté, les quatre bêtes, justement, du côté opposé. J'espère seulement que nous le comprenons tous. Et si ce n'est pas le cas, nous le reprendrons en effet plusieurs fois. Mais dans Apocalypse chapitre 6, verset 1, il est écrit, Apocalypse 6, verset 1, « Je vis alors l'agneau ouvrir l'un des sept sceaux. » Ils entendirent l'un des quatre êtres vivants. L'un. Pourquoi seulement quatre? Pas plus. Seulement quatre. Pourquoi? Pas plus. Quatre êtres vivants. Il n'y avait d'êtres vivants qu'au quatre premiers sauts. Pas au cinquième, au sixième, pas au septième. Parce que seuls les quatre premiers sauts se déroulent en parallèle avec le déroulement de la période de l'Église du Nouveau Testament. Cinquième saut, très clairement, le peuple d'Israël, les Juifs qui ont été tués, qui appellent à la vengeance. Les vrais croyants n'appellent pas à la vengeance. Ils crient, « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, dans le cinquième saut, laissez-moi l'effleurer, le sixième verset de l'Apocalypse. Pardon, le chapitre 6, Apocalypse 6, verset 9 maintenant. Puis lorsque l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis en bas, à l'autel des holocaustes, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils possédaient. Remarquez qu'il n'y a pas encore ici de témoignage de Jésus-Christ, seulement à cause de la parole et du témoignage qu'ils possédaient. Verset 10. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, ô saint et véritable Seigneur, tarderas-tu à juger et ne tireras-tu pas vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Ce n'est pas le propos d'un croyant. Pensez à Étienne, pensez à notre Seigneur, à tous ceux qui sont morts, qui ont laissé leur vie. Ils ont dit « Ne leur impute pas ce péché ici ». Il s'agit de personnes qui ont été massacrées uniquement parce qu'elles étaient juifs. Ils portaient le témoignage de Dieu et la parole du Seigneur. Et si l'on demandait quels crimes ont commis les 6 millions de juifs qui ont été assassinés sous le Troisième Reich, aucun n'a commis le moindre crime. Ils ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Et si tout le monde savait que c'est un père jésuite qui a écrit le livre Mein Kampf, la situation serait également très différente. Donc Mein Kampf, c'est le livre que Hitler aurait écrit. Les gens ne savent pas qui était derrière tout cela. Et voilà que notre peuple en est accablé. Je ne veux pas devenir national, mais j'ai posé quelques questions à Frère Branham le 3 décembre 1962. Et l'une d'elles était de savoir si une malédiction pesait sur le peuple allemand à cause de ce qui avait été fait au peuple d'Israël. Et je suis heureux d'avoir posé cette question, car vous le savez, oui, merci, Frère Gaillet. Et c'est toujours comme ça que le monde entier secoue la tête. Et pour simplement la question, je pense maintenant à Leningrad. J'étais à Leningrad, au restaurant. Nous sommes assis à une grande table et tout le monde parle anglais, les Russes, et qu'ils étaient tous parlant anglais. Et une gentille dame dit soudain, « Êtes-vous vraiment allemand ?»« Oui, j'ai dit oui. Pourquoi ? Pour quelle raison ?»« Oui, mais vous êtes quelqu'un de gentil. C'est étonnant. Je vous demande pardon. Mais regardez, les Allemands ont pourtant causé de si cruels malheurs. Non, frère Rousse, pardon. Et bien, d'accord. Qui était derrière tout cela ? C'est moi qui l'ai écrit. Aucun Bismarck, aucun Hindenburg, aucun Guillaume II, personne n'aurait fait ce qui a été fait sous le Troisième Reich et l'Église romaine devra un jour en répondre devant le trône de Dieu. L'Église romaine, car c'est écrit que tout le sang des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre a été trouvé dans la grande ville qui domine sur les rois de la terre. Et la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu et elle le restera. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait des Juifs ici, dans le cinquième sceau, qui ont été massacrés. Uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Et parce qu'on dit que Jésus était aussi Juif. Et c'est le plus grand mensonge qui existe sur terre. Jésus n'était pas Juif et il n'était pas païen. Il était Dieu révélé sous forme humaine. En lui n'a coulé ni sang juif, ni sang païen. En lui a coulé un sang divin. Le sang divin est saint, versé pour notre rédemption et notre réconciliation. Loué soit le nom, notre Seigneur, pour cela. Il y a des choses qui devraient être corrigées. Il est encore dit ici, dans Apocalypse 6. Ah, ça, je voulais encore le dire. Et ensuite, frère Branham a dit littéralement, pas sur le peuple allemand. Dieu va donc concernant la malédiction. Il n'y a pas de malédiction sur le peuple allemand. Dieu demandera des comptes à ceux qui en ont porté la responsabilité. Et j'ai été soulagé par cette réponse, car quel lourd héritage nous aurions apporté avec nous si nous devions en assumer la responsabilité. Ce seront d'autres, les nôtres aussi, bien sûr, c'est évident. Nous lisons encore dans Apocalypse 6, verset 11. On donna alors à chacun d'eux un vêtement blanc. Et il leur fut dit de patienter encore un peu jusqu'à ce que fussent aussi au complet leurs compagnons serviteurs. Avez-vous entendu cette parole? Non pas des fils et des filles, comme c'est le cas dans la Nouvelle Alliance. Vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Mais serviteurs et servantes, tel est le peuple d'Israël. Les fils et les filles, c'est l'Église du Nouveau Testament. Il faut aussi distinguer très précisément ces termes dans les Saintes Écritures. Par exemple, les 144 000 dont il est écrit, et ils sont tous juifs. Permettez-moi de lire tout de suite dans Apocalypse 7, Apocalypse 7, verset 3. Apocalypse 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le front des serviteurs, serviteurs. L'âge de l'Église du Nouveau Testament, sous le terme de fils et filles, dure depuis la fondation de l'Église jusqu'à l'enlèvement. Après cela, lorsque la parole du Seigneur passera aux Juifs et que les deux prophètes prophétiseront à Jérusalem, le temps sera venu pour le peuple d'Israël et ils seront scellés, c'est-à-dire les 144 000. Revenons à Apocalypse 6. Il y est clairement dit au verset 11, on donna alors à chacun d'eux un vêtement blanc et il leur fut dit de patienter encore un peu jusqu'à ce que fussent aussi au complet leurs compagnons serviteurs et leurs frères qui devraient subir la mort comme eux. Et quand je pense maintenant en relation avec la deuxième partie du cinquième sceau, qu'un temps terrible va encore s'abattre sur le peuple d'Israël. Cela fait en quelque sorte très mal à mon âme. À mon âme. Car il est écrit qu'ils devront subir la mort comme eux. Mais cela viendra encore. Ils concluront en effet l'alliance avec leur ennemi juré. Puis il la rompra au milieu de la deuxième semaine d'année. Et alors ils seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. C'est décrit avec précision dans la Bible. Apocalypse 13, verset 5, parle de l'Antichrist et de la période qui suivra l'enlèvement. Il y est dit, Apocalypse 13, verset 5, « Et il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir de le faire ainsi pendant 42 mois. » Combien font 42 mois? 3 ans et demi. Quelle que soit la formulation que nous trouvons dans la parole prophétique, il s'agit de la même période de temps. Dans Daniel, nous avons la même division du temps. Permettez-moi de le lire. Le prophète Daniel devrait se trouver, ça devrait se trouver au chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 25. Il tiendra des discours arrogants contre le Très-Haut. Il maltraitera les saints du Très-Haut. Il s'efforcera de changer les temps de fête et la loi et ils seront livrés à son pouvoir un an, deux ans et demi. Et celui qui veut savoir exactement quand est ce temps n'a qu'à lire un autre verset. Il n'a pas besoin de demander à un homme, il n'a qu'à lire le verset suivant, tout simplement. Dans le verset suivant, après ces 3 ans et demi, il est écrit, verset 26, « Mais alors le tribunal tiendra séance et on lui arrachera la domination pour la détruire et l'anéantir définitivement. » Alors la royauté, la domination et le pouvoir sur tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel et toutes les autres puissances le serviront et lui seront assujetties. Amen. Peut-on être plus clair? Est-ce que cela peut être dit plus clair? Après les 3 dernières années et demie de la grande tribulation et le massacre des derniers juifs, etc., et ainsi de suite, la cour tient séance, le tribunal tiendra séance, et quand cela sera terminé, je peux vous lire où est-ce que je l'ai écrit. Nous pouvons aussi lire, en effet, lorsque le Seigneur viendra s'asseoir sur le trône de sa gloire et que les nations seront rassemblées devant lui, ce n'est pas encore le jugement final, c'est le jugement avant le règne de 1000 ans. Matthieu 25, verset 31. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront alors rassemblées devant lui et il les séparera, etc. etc. Ici, il n'est pas parlé de la résurrection des morts. Pas du tout. Il n'est pas ici question de la résurrection de tous les morts. Pas du tout. On doit lire avec exactitude les Saintes Écritures et respecter le contexte. Ensuite, celui qui lit au verset 34 remarquera qu'il n'est pas question de juge, mais de roi. Le roi dira alors à ceux qui se trouvent à sa droite. Il jugera, mais il sera roi en ce temps-là. En effet, c'est en ce temps-là qu'il exercera la royauté. Et il en sera autrement lorsque le trône blanc sera en place, c'est-à-dire après les 1000 ans, lorsque le jugement aura lieu sur le trône blanc. Poursuivons la lecture de l'Apocalypse 6. Apocalypse 6, nous avons compris le cinquième sceau. La première partie est accomplie par tous les Juifs qui ont été déjà assassinés. La deuxième partie sera accomplie après que les deux témoins auront accompli leur ministère, que l'alliance sera rompue et qu'ils seront livrés à l'Antichrist pour les 3 dernières années et demie. Vous savez que lorsque le ministère des deux prophètes sera terminé, et cela aussi, je peux vous le lire, combien de temps il durera. Apocalypse chapitre 11. Il est écrit ici de plus et plus précisément au verset 3, Apocalypse 11, verset 3. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Exactement la même répartition du temps. Et ensuite, comme nous l'avons dit, vient la rupture. Et quand survient la rupture, lorsque le Seigneur se révèle aux 144 000, sur la montagne de Sion, la rupture, et qu'ils le reconnaissent, à savoir celui qu'ils ont transpercé, qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront aussi en même temps qui était celui en qui ils avaient mis leur confiance auparavant, celui en qui ils s'étaient fait avoir. Et l'alliance est rompue et la tribulation est montrée, ce que le prophète Jérémie a spécialement vu. Apocalypse 31, vous pouvez le lire, un temps de détresse pour Jacob va s'abattre. Jérémie 31. Passons au sixième sceau. Le temps est court. Cet après-midi, le sixième sceau nous montre déjà le jour du Seigneur, c'est-à-dire l'aube des temps, après le temps de la grâce et après ce qui arrivera lorsque le scellement aura eu lieu. Apocalypse chapitre 6, du verset 12. Apocalypse 6, 12. Je vis encore que lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut un puissant tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune devint comme du sang. Les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme un figuier jette ses fruits non mûrs quand un vent de tempête le secoue. Verset 14. Les cieux disparurent comme un rouleau qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, les dignitaires et les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et parmi les roches des montagnes. Et ils crièrent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour, de sa colère et jugement est arrivé. Qui pourrait y résister? Retenons le mot jugement de colère. Alors le jour du jugement de colère éclatera pour tous ceux qui ont refusé la grâce. Les Saintes Écritures enseignent clairement que la colère n'a été enlevée qu'en Christ, ôtée qu'en Christ. Celui qui ne devient pas croyant, la colère de Dieu reste sur lui. Seul celui qui est devenu croyant s'est vu retirer la colère de Dieu. En ce qui concerne le jugement de la colère, Paul a écrit plusieurs fois, surtout dans la lettre aux Thessaloniciens. Voici ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Et d'attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauvera de la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés au jugement de colère. D'où l'Église, l'Église épouse, ne passera pas par la grande tribulation. Elle ne peut pas passer par la grande tribulation. Elle sera enlevée avant. Elle peut passer par la persécution, par des épreuves et des temps difficiles. Mais l'Église du Dieu vivant n'est pas destinée à subir les jugements de colère que Dieu déversera sur l'humanité incrédule. Pendant ce temps, et je vous le montre, nous serons dans la gloire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, la parole bien connue dont il est question ici de paix et sécurité au verset 3, 1 Corinthiens 5, il continue au verset 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de lumière et des fils du jour. Nous n'avons rien à faire avec la nuit ni avec les ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais faisons attention et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui appartenons au jour, restons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi, et de l'amour, et du casque de l'espérance du salut. Car ce n'est pas pour le jugement de la colère que Dieu nous a destinés, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais lire plusieurs nombres de passages bibliques. Je voudrais encore vous le montrer à partir de l'Ancien Testament, car déjà, dans l'Ancien, il a été dit à maintes reprises ce qui a été confirmé dans le Nouveau. Dans le prophète Ésaïe, de tous les prophètes, c'est lui qui a écrit de manière complète sur ces sujets. Ici, nous avons deux chapitres particuliers qui traitent ce sujet, le chapitre 24 et aussi les chapitres 25 et 26. Mais je vais lire maintenant le verset 21 du chapitre 24. Et vous verrez comme cela correspond bien au sixième sceau. En ce jour-là, j'ai dit Ésaïe 24 du verset 21. Mais en ce jour-là, il arrivera, Ésaïe 24, 21, que l'Éternel fera rendre compte à l'armée des hauts lieux, dans les hauts lieux, et au roi de la terre sur la terre. Ils seront enfermés ensemble, comme on rassemble des prisonniers dans une fosse et enfermés dans une prison, bien fermés et ils ne seront jugés, qu'après un long temps. Quand est-ce que cela sera? Quand cela arrivera-t-il? Avant le début du règne de 1000 ans. Car le jugement n'interviendra qu'après le 1000 ans. Au jour du jugement dernier, avez-vous compris? Mais comme il est clairement dit qu'ici, ils seront enfermés ensemble et ne seront jugés qu'après une longue période. Et il est dit ici. Alors la lune pâle, verset 23, rougira et le soleil ardent deviendra pâle. Car alors, l'Éternel des armées commencera à régner sur la montagne de Sion et dans Jérusalem. Amen. Qui peut encore interpréter ça? Quand cela arrivera, l'Éternel, notre Dieu, commencera à régner sur la montagne de Sion. Personne n'a besoin d'interpréter. Il suffit de lire avec la révélation et un peu de réflexion et tout nous tombe dessus comme ça par la grâce de Dieu. Nous pouvons continuer à lire, et plus précisément, le chapitre 26, où nous avons la parole du jugement de colère, Ésaïe 26, verset 20. « Bien, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi un court instant jusqu'à ce que le jugement de la colère soit passé. Amen. Mon peuple, ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour ce court instant. Et cela, c'est quelques années auprès de Dieu. Elles sont passées très vite. C'était un bon moment. Et puis, elles sont passées. Combien de temps? Jusqu'à ce que le jugement de colère soit passé. Et alors, après le repas des noces, le Seigneur reviendra avec les siens, comme il est écrit. Je crois que nous avons déjà parlé de cela aussi. Ce qui est très important pour nous, ce serait de savoir ce qui se passera ainsi, même au soleil et à la lune, au moment où Dieu réparera le dommage causé à son peuple d'Israël. Lisons Ésaïe 30, du verset 26. Ésaïe 30, verset 26, ici il est écrit, et la lumière de la lune sera aussi brillante que celle du soleil. Et la lumière du soleil brillera 7 fois plus que celle des 7 jours de la semaine, au moment où l'Éternel pansera le mal de son peuple et guérira la blessure qui lui a été infligé. Dieu a vraiment tout fait prédire dans sa parole, c'est-à-dire qu'il a lui-même parlé par les prophètes et dit tout ce qui allait arriver. Que ce soit le soleil, la lune ou les étoiles, tout ce qui pouvait arriver, même la transformation de la terre, l'aplanissement, le fait que tout redevienne beau, c'est ce qu'a dit directement Jean déjà à l'époque dans Luc chapitre 3 ou selon la parole prophétique de l'Ancien Testament, Luc chapitre 3 du verset 5, que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que ce qui est tortueux soit redressé et que les chemins raboteux soient aplanis. Et que toute l'humanité voit le salut de Dieu. Il y a encore des choses qui viennent ou qui vont venir par la grâce de Dieu. Beaucoup de choses se sont accomplies lors de la première venue de Christ. D'autres s'accompliront lors de la seconde venue de Christ. Il y a encore des choses. Une chose est sûre, nous vivons dans les tout derniers temps. Nous vivons la dernière période de l'histoire du salut. Aucun d'entre nous ne peut dire combien de temps cela va encore durer, mais nous pouvons dire une chose, la venue du Seigneur est proche. Il a lui-même indiqué les signes des temps en disant, apprenez une parabole du figuier quand il devient juteux. Quand les bourgeons sortent, Alors vous savez que le temps est proche. Nous l'apprenons. Nous en tirons la leçon et savons que la venue du Seigneur est très proche. Que personne ne pense ou ne dise, cela a toujours été prêché ainsi et jusqu'à présent, cela n'est pas encore arrivé. C'est vrai, cela a été prêché et n'est pas encore arrivé. Et pourquoi pas? Parce que le temps n'était pas encore venu. Mais maintenant, le temps est venu. Et nous voyons que le Seigneur fait vraiment tout, mais vraiment tout s'accomplir. Il fait vraiment tout s'accomplir. Et que maintenant, nous ne pouvons pas seulement nous y attendre, mais que nous le savons. Les choses se déroulent en vue du retour de Jésus-Christ. Tout est dans tous les domaines. Et cela aussi, j'ai eu l'occasion de le dire très clairement ici. Lorsqu'il est question de cette grande puissance religieuse qui chevauchera la bête, il ne s'agit pas d'une bête aux États-Unis, d'une bête ici, d'une bête là, mais d'une puissance rassemblée. Les puissances partielles ne suffisent pas à cette puissance mondiale. Elle a besoin d'une puissance mondiale pour pouvoir l'être elle-même. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais nous avons entendu beaucoup de choses ce week-end. Je pense que la parole prophétique est devenue si claire en elle-même grâce à la révélation qu'il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus. Mais c'est juste pour vous aider, surtout pour ceux qui ne se sont pas beaucoup, intéressés à l'Apocalypse. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il est question de deux bêtes. L'une qui sort de la mer et l'autre qui sort de la terre. Il me suffisait de lire ce chapitre, mais cette grande puissance religieuse ne chevauche pas la deuxième bête, elle chevauche la première. C'est sur la bête à laquelle le dragon a donné le pouvoir que chevauche ce grand pouvoir religieux, non pas sur la deuxième bête décrite par le verset 11 et qui se réfère aux deux domaines religieux et terrestres, mais ici sur la puissante bête à sept têtes et 10 cornes. La seconde ressemblait à un agneau. Vous voyez de quoi il s'agit aussi. Celui qui continue à lire peut la trouver. Et puis, plus tard, elle parle aussi comme le dragon. Elle parlait aussi, alors, la même langue, bien qu'auparavant, elle était belle et protestante, n'est-ce pas? Tout était très fin et tout a été repris. La bête qui parlait avant ou ressemblait à un agneau. Peut-être que je le lirai quand même, parce que nous avons traité la première bête en détail et pas la deuxième, très brièvement. Ne vous inquiétez pas, Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Alors Frère Branham m'a dit très clairement que la bête qui sort ici des eaux est l'ancien empire romain tel que nous le connaissons tous. Et la deuxième bête qui sort de la terre, où il n'y avait à l'époque ni peuple ni langue, c'était les États-Unis. Et ça continue. Elle parla alors comme un dragon. Savez-vous que dans la législation, quand les États-Unis sont devenus les États-Unis, quand est-ce que c'était? Le 4 juillet 74. Il est écrit qu'aucun catholique ne pourra jamais devenir président des États-Unis dans les législations. Mais maintenant, les choses ont déjà changé, n'est-ce pas? Et on parle le même langage là-bas aussi. Ce n'est pas seulement un pouvoir en tant que bête, c'est aussi un pouvoir religieux. Le Conseil mondial des églises, l'Union protestante, l'image de la bête, cela aussi, aucun d'entre nous ne l'aurait su. Le Conseil mondial des églises, l'Union protestante, l'image de la bête, nous ne l'aurions pas su. Si Dieu ne l'avait pas laissé annoncer par une bouche de prophète, par la révélation, nous serions tous restés perplexes. Mais cette bête qui avait l'apparence d'un agneau, a ensuite parlé comme un dragon. Maintenant, écoutez ce qui est écrit ici, au verset 12. Et elle exerce sous ses yeux tout le pouvoir de la première bête. Le second pouvoir exerce le pouvoir de la première bête. Et elle le fait encore plus sous ses yeux. Cela va encore plus loin. Et elle amène la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ici, nous avons vraiment un résumé du pouvoir religieux terrestre et aussi là, du pouvoir religieux terrestre. Et le second pouvoir fait en sorte que le premier reçoive à nouveau hommage et reconnaissance. Il n'est pas nécessaire de savoir grand chose pour comprendre ce que cela signifie. Combien d'évêques ont signé récemment, je crois 100 ou 200 en Grande-Bretagne, pour dire que l'église anglicane est en fait une partie de l'église romaine. Tout recule. Les dégâts doivent être réparés. Et le monde entier s'étonne que l'une des bêtes qui avait été blessée à mort ait été guérie. Et la bête était revenue comme avant, et le monde entier s'en étonne. Cela continue ici, au verset 13. Apocalypse 13, verset 13. Elle accomplit aussi de grands signes miraculeux au point de faire descendre du ciel sur la terre du feu aux yeux des hommes. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet non plus. Nous savons très bien quel feu est déjà tombé et tombera encore. Si l'on considère Hiroshima et Nagasaki et tout ce qui est déjà tombé, et n'oublions pas que 119 scientifiques allemands ont été amené de Travemünde après la Seconde Guerre mondiale. Et quand on pense à Werner von Braun et à tous ces gens qui ont été engagés pour mettre le feu aux poutres, moi-même, j'avais un ami qui s'appelait M. Senf et qui travaillait là-bas. C'était il y a de nombreuses années. J'y suis allé avec lui et il m'a dit des choses. Beaucoup de choses sont arrivées et le monde ne comprend pas pourquoi cela devait arriver. Tout est l'accomplissement des Écritures. Aujourd'hui, tout le monde peut appuyer sur le bouton à tout moment. Et alors, il tombe vraiment beaucoup de feu du ciel et il n'y aura plus d'échappatoire. Ensuite, il est dit ici, à partir du verset 15, « Il lui fut aussi donné de faire vivre l'image de la bête. » Je ne veux pas parler de cela. Un pasteur évangélique du nom de Mark Mann en a parlé sans appeler l'enfant par son nom. Je l'ai cité dans le livre. Certains se sont déjà inquiétés de tout ce qui se passait, à la différence près qu'ils n'avaient pas une vue d'ensemble, mais qu'ils pressentaient quand même où cela allait, où cela venait, d'où cela venait et où cela allait ou bien alors menait. Et nous croyons effectivement que le Seigneur appellera encore des gens de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les croyances à sortir. Dieu n'est pas lié à une confession. Nous croyons que les gens sont sincères dans toutes les dénominations, que le chemin leur a seulement été barré selon la parole de l'Écriture. Vous-même n'y êtes pas entré et vous n'avez pas non plus laissé entrer ceux qui voulaient y entrer. Par souci de brièveté, je vous livre très rapidement les derniers versets du chapitre 13, peut-être même du verset 15. Encore, il lui fut aussi donné de faire vivre l'image de la bête, de sorte que l'image de la bête parlait même. Et elle obtint aussi que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent mis à mort. Il ne s'agit pas seulement d'être affilié à l'église romaine. Le moment viendra où tous ceux qui n'appartiennent pas à une église qui n'appartiennent pas au conseil mondial de l'Église seront dans le besoin, seront dans des difficultés et ils se sentiront obligés de dire que la division n'aurait pas dû avoir lieu. Ils voudront réparer tous les dégâts et ceux qui ne participeront pas seront justement stigmatisés comme des marginaux et cela ne suffira pas. Nous irons probablement mal pendant une très courte période, mais nous irons d'autant mieux ensuite, comme je l'ai dit aujourd'hui, même dans la tribulation. Un croyant se dit que la tribulation va et vient, puis elle est terminée et que la gloire est éternelle. Le verset 16 dit ceci. De plus, elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, se fassent une marque à la main droite ou au front. Et personne n'aura le droit d'acheter ou de vendre quoi que ce soit s'il ne porte sur lui la marque, c'est-à-dire le nom de la bête et le nombre ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom. Ça aussi, nous avons écrit là-dessus. Plus d'énigmes concernant ces choses. C'est vraiment révélé par le Saint-Esprit. Ça a été révélé par le Saint-Esprit de manière claire des Saintes Écritures. Il n'y a plus besoin d'un homme pour interpréter. Dieu l'a révélé. Et nous en sommes très reconnaissants. Il est écrit ici, dans le verset 18, c'est ici que la vraie sagesse peut se manifester. Beaucoup sont sages. Mais est-ce qu'ils ont la vraie sagesse qui vient de Dieu? C'est ça la question. Ici peut se manifester la vraie sagesse. Celui qui a de l'intelligence. Ici, il ne s'agit pas de beaucoup d'intelligence et de connaissance, mais de la connaissance et de l'intelligence et de la sagesse divine. Qu'il calcule le nombre de la bête. Et maintenant, arrive. C'est en effet le nombre d'un homme. Et son nombre est 666. Vicarius Filii Dei. D'autres ont fait le calcul. Et c'est vrai, le calcul est juste. On peut faire la contre-épreuve. Tout le monde sait que lorsqu'on calcule, on peut faire la contre-épreuve. Si, c'est vrai. Tout est parfaitement exact. Et la parole que Dieu nous a révélée est fiable et certaine. Non pas le chiffre d'un système quelconque, mais celui d'un homme qui préside à l'ensemble. On ne peut pas le dire plus clairement. Mais nous voulons le transmettre aussi clairement que les Saintes Écritures le disent. Pour finir, je tiens à dire à chacun d'entre nous que nous souhaitons vraiment de tout cœur que tous les hommes deviennent croyants. Je ne me réjouis pas qu'un seul d'entre eux se perde. Au contraire, je me réjouirais que tous soient sauvés. Dieu seul en décide. Et chaque homme se décide pour ou contre le Seigneur. Vous savez qu'il y a un mouvement. Ils croient, oui, que même le diable doit être sauvé. Et ils disent qu'il a deux côtés, un bon et un mauvais. Et qu'une fois que le mauvais a triomphé, c'est le bon qui va triompher. Et pour autant que vous connaissiez tous ces enseignements, non, le diable n'était pas destiné à être sauvé et il ne le sera pas non plus. Nous devons faire une distinction très claire entre les choses. Je voudrais juste dire encore une fois, nous souhaitons vraiment que tous les hommes puissent être sauvés de toutes les langues, des peuples, de toutes les dénominations, de toutes les communautés, où qu'elles soient. Car imaginez que l'homme quitte cette terre et se retrouve dans le lieu du tourment. C'est une chose que l'on ne peut pas imaginer. C'est une pensée qu'il ne faut même pas envisager. C'est trop. Simplement savoir qu'il n'y aura plus jamais de possibilité de prendre une nouvelle décision, que le temps a pris fin pour toujours et que l'homme est parti, séparé de Dieu dans l'éternité. Pour l'éternité, il ne faut pas penser à cette pensée jusqu'au bout. Malheur à l'homme qui a manqué le temps de la grâce, il ne peut pas se racheter, il ne peut pas faire amende honorable, il ne pourra jamais se pardonner. Les reproches seuls suffiront à provoquer le fléau par lequel on passe. Savoir que c'était le temps de la grâce, savoir le salut, tout était là et qu'on ne l'a pas accepté. Et on est descendu sans Dieu, sans espoir, sans rien. Pour cela, il n'y a pas d'excuse ni de réparation. Que Dieu nous aide, nous et beaucoup d'autres, à profiter du temps de grâce pour aller vers le Seigneur. C'est le jour du salut. Ceci est le temps agréable. Si quelqu'un veut venir au Seigneur, qu'il vienne à lui aujourd'hui, et non demain, aujourd'hui, car il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et non demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, qu'il plaise au Dieu vivant de faire de nous tous une bénédiction pour les autres, de faire de nous des porte-paroles, afin que beaucoup soient encore sauvés et fassent l'expérience avec le Seigneur et que Golgotha ait valu pleinement la peine et que le salaire de la douleur du Seigneur soit recueilli, que beaucoup trouvent encore le Seigneur. Plus ils seront nombreux à venir, plus grande sera la joie dans le ciel et aussi la joie pour nous. Celui qui est sauvé a le sens du salut pour les autres. Il veut que d'autres soient aussi sauvés et amenés au Seigneur. Que notre Seigneur et Dieu soient loués et honorés pour l'enseignement de sa parole. Oui, pour la partie prophétique, pour la partie évangélique, pour tout. Et que le Seigneur fasse la grâce que personne ne soit inaperçu, négligé, que tout soit annoncé ici de manière équilibrée. Tout, le salut, la guérison, l'enseignement, la partie prophétique, que tous puissent vraiment avoir part à tout ce que Dieu a préparé. Et je pense que c'est le cas. Même lorsque nous parlons de la révélation, de paroles prophétiques, il est toujours question de salut, de grâce. Toujours, ces choses en font partie. Il n'y a pas de proclamation de la parole sans que les gens soient appelés à consacrer leur vie au Seigneur, à le servir, à le suivre et aussi à être obéissant et à se laisser préparer pour le grand et glorieux jour du retour de Jésus-Christ. Il reviendra, il nous amènera dans la gloire. Nous serons avec lui au temps, donc pendant la grande tribulation, épargnés lorsque les jugements de colère frapperont cette terre, et ensuite nous reviendrons avec lui pour être présents. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, nous serons avec le Seigneur. Que son saint nom soit loué et glorifié. Amen.